volontairement et ils vont bien. Donc le but d'aujourd'hui n'est pas de parler de ce... Enfin, on va parler de ce film, c'est sûr, mais le message que je vous apporte, c'est quand même assez positif. Et je voudrais commencer par remercier, pas les gens ici, je suis désolée, mais tous mes collègues qui viennent de plus en plus nombreux se renseigner. Juste pour vous donner un ordre d'idée, depuis l'année dernière, mon inspectrice a mis en place des animations pédagogiques qui sont censées être adressées à 20-30 personnes. Nous avons systématiquement des problèmes de place. Donc maintenant, elle réserve des endroits où il y a 200 places. Je trouve qu'en moyenne, les plus que j'ai. C'est une vraie demande des enseignants. Ils ont besoin de savoir, ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne savent pas ce qu'il faut qu'ils fassent. On a parlé tout au début des différents textes qui sont sortis au niveau de l'éducation nationale. Ils ont mérité d'exister et de reconnaître que les enfants précoces sont aussi des enfants, déjà, ensuite des élèves, et ensuite des enfants qui peuvent rencontrer des difficultés scolaires. Et ça, c'est très bien. Maintenant, à ma connaissance, dans les textes, il n'y a nulle part comment on gère ça dans sa classe. Ça n'existe pas. La recherche pédagogique n'est pas encore là, ça va peut-être venir, j'espère. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut vous proposer et ce que j'essaye de vous apporter, ce sont des expérimentations de collègues qui mettent toute leur bonne volonté pour la réussite de tous leurs élèves, y compris les précoces. Donc ça existe, des enseignants comme ça, c'est même la majorité. Le problème, c'est qu'on parle surtout des autres, ceux qui posent des difficultés parce qu'ils refusent, parce qu'ils sont en difficulté, et c'est nous qu'on entend parler. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui se bougent dans leur classe pour essayer de faire avancer les choses et qui ne sont pas forcément reconnus, ni par les uns, ni par les autres. Ils ont vraiment besoin de soutien, eux aussi. Alors maintenant, là où on en est dans les apprentissages par rapport à nos précoces, ce que je voudrais vous développer avec vous ici, rapidement, puisque je suis limitée dans le temps, il s'agit de voir un petit peu comment, en classe, un enfant précoce va apprendre et pourquoi c'est compliqué pour lui par rapport à ce que nous, on va conduire comme type d'apprentissage avec les autres. Je ne vous donnerai pas de solution miracle, il n'y en a pas, mais des exemples et des cas par cas. Parce que à chaque enfant, il y a un profil unique et il va falloir s'adapter. Le jeu, c'est d'arriver à développer un partenariat. Un partenariat entre l'enfant et l'élève, ça n'est pas toujours la même chose, l'enseignant, mais aussi les parents. Et ça, c'est compliqué. La plupart des parents sont inquiets et pour cause. Leurs enfants vont généralement mal, en général, c'est pour ça que bouge un petit peu, et c'est très compliqué de gérer les parents angoissés quand on est enseignant et qu'on n'a pas les crédits. Donc c'est un petit peu tout ça que je voudrais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. Je vais beaucoup m'appuyer sur ce qu'a dit Marie-Laure, puisque ça rebondit exactement sur tout ce que j'ai pu voir, etc., toutes les expérimentations qu'on a menées ensemble. Merci Marie-Laure. Je vais juste aller un tout petit peu plus loin sur deux, trois petites choses au niveau des procédures d'apprentissage des enfants précoces. Là où on en est, on a parlé de la mémoire tout à l'heure et de la manière dont ils mémorisent. Chez les petits, je parle du primaire. On parle des enfants qui sont jusqu'au CM2, donc je ne parle pas des adultes. Chez les petits, la mémorisation, elle se fait chez les précoces essentiellement sur l'affect. On va retenir parce qu'on aime bien. Ce qui fait que nous, enseignants, se retrouvons face à des enfants qui vont nous réciter la liste des patrons, sans CE2, depuis Clovis jusqu'à Clovis 8, c'est pas tout à fait compliqué, mais qui sont fichtrement incapables de retenir les tables de multiplication. Et là, on se dit, ils se moquent de moi. Non, ça ne sont pas les mêmes compétences qui sont en jeu. Apprendre et mémoriser ce que l'on aime, ça se fait de manière intuitive, spontanée. La conscience n'intervient pas dedans. Apprendre une table de multiplication, il va falloir, comme l'a expliqué Marie-Laure, se mettre en projet, se décider à le faire. Et pour ça, un enfant, mais n'importe lequel, a besoin de mettre du sens derrière. Le problème, c'est que nos précoces n'y mettent absolument pas le même sens que les autres. Donc, ils ne savent pas utiliser cette mémoire-là. Il va falloir le leur apprendre. Et pour ça, leur expliquer à quoi ça sert. Première difficulté. D'autre part, leur marque, leur manière de penser est essentiellement fondée sur l'intuition. Tous les parents précoces vont reconnaître de qui je parle lorsqu'on dit « il sait, mais il ne sait pas comment ». Résultat, nous, en classe, on le voit bien avec les résolutions de problèmes. On pose l'énoncé, on n'a pas fini de poser l'énoncé que le gamin a la main « ça fait ça ». D'accord. Et comment as-tu fait ? Bah, c'est dans ma tête. J'en suis bien contente. Donc on va se retrouver avec des enfants qui n'ont pas du tout le même mode de pensée que la pensée attendue. Globalement, je pense qu'on va vous expliquer ça un peu plus en détail cet après-midi. Marie-Laure a évoqué la pensée en arborescence. La majorité des choses, lorsqu'ils vont fonctionner de manière linéaire. C'est-à-dire qu'ils vont regarder l'arbre des possibles, choisir la possibilité la plus probable, éliminer les autres, donc effectuer un premier tri. De là vient un nouvel arrangement, et petit à petit, on va construire comme ça toute une réflexion qui va nous amener au but. Ça, c'est la pensée normale, celle sur laquelle s'appuient les apprentissages de l'école. Ça serait trop facile si nos précoces étaient comme ça. Pour la plupart, ils ne fonctionnent pas du tout de cette manière-là. Ils ont un arbre des possibles ouvert en permanence, avec toutes les branches qui valent la même chose. Ils ont beaucoup de mal à faire un tri et à renoncer à certaines possibilités, à faire un choix pour décider laquelle va être la première par rapport aux autres. Donc ce qui va marcher, c'est leur centre d'intérêt. C'est leur affectif. Et là encore, on va rester dans le domaine inconscient. Ils vont sauter d'une branche à l'autre. Leur rapidité de pensée va les amener au résultat bien avant tout le monde. Mais ils n'ont aucun moyen de savoir par où ils sont passés. À aucun moment. Alors, le problème, c'est que quand on fonctionne de manière linéaire, on a quand même quelques petits avantages. C'est plus lent, certes. Mais lorsqu'on arrive à côté du but, on peut démonter les segments. Chercher où on s'est trompé, repartir sur une autre probabilité et finir par arriver au bon résultat. Bref, on a le droit à l'erreur. On peut se tromper, ça n'est pas grave. On peut rectifier le tir. Et puis, deuxième avantage énorme, une fois qu'on a trouvé le bon chemin, on peut le reproduire, puisqu'on sait par où on est passé. Et puis au début, on va reproduire un certain nombre de fois. Les collègues se reconnaîtront si je parle d'exercice de systématisation, mais c'est exactement ça. On va refaire ce chemin, le refaire, jusqu'à ce qu'il soit automatique. Et on finit par ne plus avoir besoin d'y penser. C'est comme ça qu'on a appris à lire. Si je demande à la majorité d'entre vous, qu'est-ce que vous faites dans votre tête quand vous êtes en train de lire, vous êtes incapable de me répondre. Il va vous falloir du temps pour réfléchir à tous les procédés que vous avez mis en place pour savoir comment vous lisez. C'est un automatisme acquis. Vous n'allez pas lire à la naissance, a priori. Le problème des précoces, c'est que ne fonctionnant pas du tout sur ce modèle-là, d'abord, ils se trompent. C'est impossible de savoir pourquoi ils se sont trompés. On ne sait pas s'ils n'ont pas compris la consigne, on ne sait pas s'ils ont mal lu la consigne, je pense à vous en parler. On ne sait pas s'ils n'ont pas suivi le bon chemin, s'ils se sont trompés dans le bon chemin, ou s'ils ont été un peu trop vite et qu'ils ont fait une erreur de calcul quand on résout des problèmes. Donc on ne sait pas pourquoi ils se trompent. On sait juste qu'ils ne sont pas arrivés au bon endroit. Pour eux, l'échec, c'est se tromper. Donc lorsqu'ils vont se tromper et qu'on va leur expliquer que c'est pas dramatique, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Pour eux, c'est terrible. Ils se trompent, ça veut dire que la magie n'aurait plus. Ils ne peuvent plus y arriver. Donc ils se découragent et passent à autre chose. Et puis deuxièmement, ils ne peuvent pas arriver à l'expertise. Ils ne peuvent pas construire un apprentissage raisonné qu'ils vont pouvoir s'approprier. Alors nous, encore, en primaire, ça va faire un peu illusion. Et quand ils vont arriver au collège, ça devient catastrophique. Parce que là, on va leur demander de raisonner. Ça n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils n'ont jamais appris à le faire et qu'ils ne savent pas par quel bout prendre le problème. Et nous, en primaire, quand on n'a pas pu déceler ça et le mettre en place avant, on n'a pas pu les aider. Forcément, ils vont arriver, ils vont être en difficulté. Certains précoces sont quand même très très doués, il y en a beaucoup, ils vont regarder comment fonctionnent les autres. Prendre à droite, à gauche, toujours en intuition, ce qui va se passer et construire cette espèce de méta-apprentissage. J'apprends à apprendre. Et là, ils vont s'en sortir. Ceux-là, en général, ne posent pas de difficultés. C'est ceux qu'on reconnaît très très vite comme étant des élèves très brillants. La plupart d'entre eux vont tranquillement sauter une classe parce que les enseignants se rendent compte que ça va vite et qu'ils ont besoin d'aller plus vite. Donc ceux-là ne vont pas poser vraiment de grosses difficultés. Globalement, on sait les gérer. Ce sont plutôt les autres qui vont poser problème, ceux qui ne sont pas capables de mettre en place tout seul cet apprentissage d'apprendre. Donc, voilà, au niveau des difficultés qu'ils vont rencontrer, on va avoir déjà au niveau du fonctionnement de l'enfant cette difficulté-là. Maintenant, au niveau du langage à l'école. Nous, quand on est en petite section, ou en toute petite section, surtout cette année, on se rend compte de pas mal de choses. Par exemple, lorsque vous avez en petite section un élève de 3 ans et 2 mois, qui vous explique avec beaucoup de sérieux que pour dire lui il serait la goudronneuse et son copain le compacteur à rouleau, deux choses possibles, son papa est chef de chantier, ou il y a un truc qui colle. Globalement, c'est plutôt il y a un truc qui colle. On va avoir des enfants qui vont maîtriser la parole d'une manière étonnante, et encore plus quand c'est un aîné. Parce que pour les parents, c'est quand même sacrément valorisant. Je sais, j'ai vécu. Quand vous avez un petit bouchon de 2 ans qui vous fait des phrases à rallonge et qui vient négocier avec vous et vous expliquer tout ce qu'il sait, c'est super rigolo, c'est vrai. Quand il arrive à l'école, il se retrouve avec des élèves classiques pour lesquels la maîtresse peine à comprendre ce qu'ils sont en train d'expliquer. Le décalage est assez surprenant. Et il est excessivement fréquent que j'ai des parents qui reviennent me voir en me disant « je ne comprends pas ». Avant, il parlait bien, et là, je ne comprends plus ce qu'il raconte. Il a appris le langage des autres. C'est rien. Donc on va avoir ce problème de langage qui va les mettre quand même en difficulté quand ils arrivent à la maternelle. Petit à petit, on leur apprend qu'on a le droit d'avoir plusieurs langages différents. Ils ont raison, apprendre le langage des autres, c'est une bonne idée. Ça leur évite de se faire mettre de côté. Donc les aider à apprendre le langage des autres, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus. De toute façon, ce ne sont pas les autres qui vont pouvoir se mettre à leur niveau. Quand vous avez un enfant qui vous fait des subjonctifs à 3 ans, c'est clair que ce n'est pas la majorité des copains qui vont le faire. Donc leur apprendre qu'on a le droit d'aller chacun à son rythme, ça peut être un outil pour les aider à s'intégrer dans la classe. En tout cas, c'est ce que nous, on a choisi de faire dans nos classes. On leur explique qu'il y a un temps où ils peuvent s'exprimer avec leurs paroles à eux, et puis un autre langage qu'ils vont développer, qui sera celui des copains. Ça marche assez bien, ils aiment bien cette notion de jeu de langage différent. Et puis, on a un autre souci qui rebondit un petit peu sur ce que Marie-Laure a expliqué tout à l'heure. On a un autre tableau qui a avec l'endroit alphabétique. Et en fait, il y a une multitude d'exemples en tête de ce type de situation. Lorsqu'il accède au langage, il ne va pas faire semblant. Comme beaucoup de choses, il va aller à fond. Donc lui, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas le mot qu'on va prononcer pour sa beauté. Ça, c'est qu'on désespère. Vous pouvez avec les mots parce que c'est joli, vous êtes bien. Mais ce n'est pas que. Ce qui va les intéresser, c'est le sens qu'il y a derrière. Mais le sens réel. Et c'est comme ça qu'en petite section, je me suis retrouvée avec un petit garçon qui m'a dit « Dans les crayons, ça ne va pas du tout parce que j'ai bien trouvé du beige, mais pas du pêche. » Bon, donc voilà le type de précision dans le vocabulaire que va rencontrer un enfant précoce. Pas tous, hein. Il y a des enfants précoces dyslexiques, dysphasiques et autres. Mais globalement, c'est un petit peu ce qui va se passer. Le problème, c'est que si vous prenez mot à mot ce qui s'est passé dans le tableau, range dans l'ordre alphabétique les mots dans le tableau. Il a pris exactement ce qu'il fallait faire. C'est juste une question de comprendre ce qu'attend l'enseignant qui, lui, va s'appuyer sur le sens commun, la compréhension commune et attendue. Je prends un autre exemple. Toujours en maternelle, c'est un petit peu ma spécialité, donc en moyenne section, on continue à apprendre à tracer des mots. Le but ultime étant d'arriver à écrire les mots, les arbres, etc. Donc, il s'agit d'un petit garçon qui était déjà lecteur en moyenne section. Vous pouvez douter la précocité un tout petit peu. Et il fallait donc tracer des mots pour faire le but des poissons. C'était à peu près au moment du bac. Et ce petit garçon attrape son crayon. Alors déjà, la préhension du petit, on en reparlera après, c'était pas terrible. Et puis commence à faire un premier truc en pleurant. Et puis insiste et perce sa feuille. Donc c'était une de mes collègues qui l'avait, qui était un petit peu inquiète, qui lui a demandé ce qui s'était passé. Et le petit garçon a répondu « De toute façon, ma main, elle ne peut pas faire un mot. » Alors, en fait, en creusant, ce petit garçon, dans sa tête, il n'avait pas la notion de rond patatoïde attendue par les enseignants et par les autres élèves. Il avait dans sa tête la notion de cercle. Le cercle est une forme quand même bien caractéristique. La maîtresse a résolu le problème en lui fournissant un gabarit. Et là, ça s'est très bien passé. Il a pu faire ses ronds avec le gabarit tourné autour. Et là, ça faisait vraiment des ronds. Avec la définition du mot rond. Le problème, c'est que quand on va parler à nos élèves et qu'on va leur demander de faire des ronds, il y a ce que moi j'appelle un implicite commun. C'est-à-dire que la plupart des élèves Un, vont dire, si la maîtresse me le demande, je peux. C'est pas conscient, mais c'est comme ça dans leur tête. Et donc, ils vont se lancer dans l'activité, sans se poser de questions. Quant à leur réalisation, la forme est terminée, c'est à peu près la définition du rôle dont va aller
plus loin. Alors, est-ce qu'ils vont être voix à
ça? C'est très bien.
D'accord, merci beaucoup.
Pas de souci. Pour un précoce, ça va pas marcher comme ça. Pour lui, un rond, c'est une forme géométrique. Donc si la maîtresse demande à faire un rond, soit la maîtresse s'est trompée, elle n'a pas tenu compte de ce que je sais faire, ça c'est pas possible, un adulte ne peut pas se tromper, c'est l'adulte qui protège l'enfant. Donc c'est forcément l'enfant qui ne sait pas faire et qui ne peut pas répondre à l'attente. Donc non seulement il y a une difficulté de réalisation, mais ça va détruire un petit peu plus l'image que l'enfant a de lui-même. Donc simplement par nos consignes, et sans vraiment, mais là pour le coup, sans vouloir faire exprès, sans comprendre pourquoi, on va les mettre en difficulté. Maintenant, réfléchir à la formulation de chacune des phrases que l'on fait quand on a 30 zigotos qui tombent dans tous les sens, et nous arrive de faire des erreurs, je le reconnais, moi la première, c'est pas toujours simple. Mais cet implicit commun, il a tendance à nous échapper. J'ai eu en CE2, une petite fille, on travaillait sur le conte, et donc on parlait du petit chaperon rouge, assez classique, je faisais un remplacement, et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe dans le texte. Donc, j'ai sur un petit passage, j'ai identifié en question, donc on a identifié la curiosité, toute la difficulté à l'école, lève la main et dit on change de casse à la ligne de fleurs. C'était pas vraiment ce que j'attendais, mais c'était la réponse exacte à ma consigne. Ensuite, il faut faire la gymnastique nécessaire pour arriver à se remémorer ce que l'on a dit, est-ce que ça correspond bien, exactement comme pour les autres. Et je pourrais vous parler pendant des heures d'expérience de ce groupe. Donc ce problème de langage, il est vraiment très fréquent chez les précoces. Dans les autres difficultés qu'ils vont rencontrer, lorsque nous conduisons des apprentissages en classe, et ça on le fait tous parce que c'est comme ça qu'on a appris à le faire, on met les enfants face à une situation de découverte. La plupart du temps, on les laisse manipuler. Alors bon, c'est moins vrai en CM2, forcément, mais plus on est dans les petites classes, plus c'est vrai. On les fait manipuler, on fait émerger une notion qui va nous servir à nous appuyer pour donner la règle, ou pour donner notre foi, etc. Et puis on va les faire s'exercer pour arriver à faire de manière systématique cette action, cette démarche. Puis on va réinvestir, un enfant qui réinvestit une notion est un enfant qui a compris la notion et qui l'a acquise. Toute cette démarche-là ne correspond pas du tout au fonctionnement des précoces. D'abord, manipuler pour la plupart, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément ce qu'ils vont préférer. En général, jouer aux échecs, ça leur va bien. Mettez-les sur un quadrillage au sol. Vous avez des surprises. Et puis, tout ce qui va être répété, ils ne vont pas saisir pourquoi. Parce qu'un enfant précoce, ça sait ou ça sait pas. Mais il n'y a pas de milieu. Ça n'apprend pas. Pas en termes d'école. L'apprentissage tel que nous le concevons, nous enseignants tel qu'on nous a appris à le concevoir, c'est-à-dire une succession d'actions mentales, conduites, raisonnées, conscientisées, ça, ils ne l'ont pas. Donc, ils vont prendre plein d'indices, ils vont savoir ou ils ne sauront pas. S'ils savent déjà, franchement, s'entraîner, à quoi ça sert? Je me mets à leur place, ça me poserait souci aussi. S'ils ne savent pas, de toute façon, vu leur mode de fonctionnement, la plupart du temps, ils vont commencer par se décourager et faire autre chose. Ils deviennent très vite champions pour passer sur autre chose et nous amener là où ils veulent et pas là où nous voulons. Donc, en fait, cette histoire de pensée intuitive, avec eux, ça va être très compliqué de mettre en place des stratégies pour qu'ils arrivent à se servir de leur boîte à outils et à construire quelque chose avec. Alors, comment on peut gérer ce genre de choses. Ensuite, on a d'autres difficultés. Un enfant précoce, c'est un enfant qui a conscience qu'il n'est pas comme les autres. Déjà, avec le langage, ils s'en rendent compte quand ils arrivent à l'école, ils sont loin d'être idiots, ils ont bien vu que les autres ne parlaient pas comme eux, et n'avaient pas la même structure qu'eux, n'avaient pas le même vocabulaire, ils n'ont pas le même système de pensée. Ils s'en rendent compte, ça ne sert à rien de leur dire le contraire. Par contre, leur donner le droit de continuer comme ils le font, rien que ça, ça change leur attitude dans la classe. On a le droit. On a le droit d'être dyslexique, on a le droit d'être précoce, on a le droit d'être comme on veut, c'est comme ça. Après, on apprend à faire. Ça ne veut pas dire que ça donne tous les droits. Forcément. Il y a des règles à respecter, il y a des devoirs quand on est dans la classe, mais on a le droit de fonctionner comme on le fait.
Lorsqu'on a ce regard-là sur les élèves, le changement, il est flagrant. La plupart des collègues, lorsqu'on me demande d'intervenir dans des animations pédagogiques, elles me rappellent dans la semaine qui suit, en me disant « mais c'est fou, c'est plus le même élève ». Simplement parce qu'elles le regardent autrement. C'est vraiment important parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Ils sentent bien qu'ils ne sont pas comme les autres. Plus on va leur dire « mais non, t'inquiète pas, mais t'es comme tout le monde, arrête de dire ça », plus ils vont développer le sentiment que c'est honteux d'être comme ils sont. C'est vraiment important d'accepter qu'ils ont un autre fonctionnement. Il va falloir le comprendre, on va chercher ensemble. Nous, on n'est pas tenus de tout savoir non plus, mais on va découvrir avec eux, puis on va chercher les meilleures solutions. Alors, juste un petit bémol, on peut changer le regard sur eux, les prendre en charge, comme ça a été demandé à l'une de mes stagiaires. Donc c'est une jeune fille qui vient de débuter, elle a eu son concours au mois de juin. Elle a donc sa première classe. 32 élèves, petits, moyens, avec un petit garçon précoce, avec plein de difficultés, et le médecin scolaire et le psychologue scolaire sont venus voir et ont dit il faut que vous preniez à part et que vous fassiez tout en relation duale avec lui. Il faut aussi rester un petit peu conscient des réalités du terrain, c'est juste impossible. Donc elle le prend en aide individualisée, elle a mis en place tout un tas de choses, c'est vraiment, elle a vraiment travaillé dessus. Le regard ne va pas tout faire, c'est une évidence. Mais rien que ça, déjà, ça leur change la vie. Ensuite, ce sont des enfants qui ont très, très, très fréquemment un gros souci d'anxiété et de stress. Moi, je vois qu'il y a des parents dans la salle.
Et c'est normal.
Donc, beaucoup de parents, on voit beaucoup tout ce qui est cauchemar, un truc comme ça. En général, nous, ce qu'on dit en maternelle, c'est qu'on voit vite arriver les parents précoces. Mais c'est une réalité, ce sont des enfants hyper angoissés, on le sent bien dans la classe, ce sont des boules de nerfs et tout les affole, tout les inquiète. Je ne vous dis pas les jours d'exercice d'alerte incendie. Là où je suis, nous dépendons du périmètre du CEA. Dans une semaine, nous avons un exercice de confinement. Je pense que ça va être sympa. Bref, d'autant que, évidemment, j'ai un petit peu des enfants précoces dans ma classe, vu qu'autour, les papas et les mamans travaillent au CEA, au synchrotron, à l'université. Enfin bref, je pense que je vais avoir des trucs un peu intéressants. Donc voilà, ce besoin de réassurance en permanence, c'est indispensable parce que ce sont des grands anxieux. Et ça, on n'y peut rien. Ne pas les prendre en compte et minimiser cette angoisse, ça va être vraiment compliqué pour eux à vivre et ils vont nous faire sentir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit en permanence de solliciter l'enseignant. Il faut qu'ils apprennent à mettre aussi un petit peu de distance par rapport à tout ça. Mais leur donner le droit de temps en temps d'avoir besoin d'un câlin pour se rassurer, surtout en maternelle, c'est un fait. On n'a pas le choix. On prend les enfants comme ils sont. Pas toujours simple, mais on essaie. Donc en termes de besoins, à l'école, on va avoir essentiellement ça. La sécurité, éviter le phénomène des boucs émissaires, des enfants qui sont maltraités par les autres parce qu'ils sont différents, etc. C'est excessivement fréquent chez les précoces et c'est une réalité du terrain. Donc assurer leur sécurité au minimum, reconnaître qu'ils sont différents, qu'ils ont un autre mode de pensée et qu'il va falloir faire avec. Mais leur indiquer qu'ils sont capables d'apprendre à fonctionner avec le fonctionnement des autres. Ils ont le droit d'avoir les deux. Et on va travailler pour leur apprendre les deux. Avoir un regard positif sur eux. Oui, c'est vrai, ils sont casse-pieds. C'est vrai, il ne faut pas se leurrer. Dans la classe, c'est compliqué de gérer un enfant précoce. Surtout quand c'est un enfant précoce qui, comme beaucoup, cumule. Donc en général, on n'est pas que précoce, sinon ça marche assez bien. Ceux qui vont nous poser des soucis, ce sont les précoces dyslexiques, les précoces dyspraxiques, et là il y en a un peu. Les précoces, alors il y a après la pause dyspraxie. Il y a la dyspraxie parce qu'il y a un problème et que du coup ils ne gèrent pas leurs gestes, et puis il y a la dyspraxie de ceux qui trouvent que c'est beaucoup plus confortable de vivre là que de vivre là. Oui. Alors la dyspraxie. Je ne suis pas spécialiste puisque je suis juste enseignante, mais globalement, de ce que j'en ai saisi, c'est le même principe que la dyslexie, c'est-à-dire un trouble des apprentissages, mais qui s'adresse non pas à la lecture ou à l'écriture, mais aux gestes. Donc ça marche aussi bien pour les gestes physiques, c'est les gros maladroits, ceux qui sont tout tombés. Ils ne peuvent pas ouvrir une trousse sans que les crayons soient par terre. Je vous laisse imaginer la suite. Mais aussi en termes de gestes mentaux, et ça c'est beaucoup plus embêtant. Parce que là, ça se passe dans la boîte noire et nous, on n'y a pas accès. Donc on a les dyspraxiques et c'est assez fréquent chez les précoces. Sachant qu'on a les deux types, ceux qui sont vraiment dyspraxiques et puis ceux qui vont développer un comportement de type dyspraxie parce qu'ils vont désinvestir leur corps, parce qu'ils se sentent tout simplement mieux dans leur monde imaginaire. Et c'est quand même régulièrement fréquent chez les garçons précoces. Et puis on va avoir, alors c'est difficile à repérer, mais il y a aussi des précoces qui vont être dysphasiques. Donc là c'est la même chose mais sur le langage oral. Et puis on a tout un tas de troubles comme ça qui vont se développer avec eux. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller regarder sur le site qui peut s'appeler ARTA. Ce sont des gens du Kremlin du Cerf qui ont réfléchi sur justement tous ces troubles spécifiques des apprentissages, sur les difficultés que les enfants rencontrent. Et c'est assez bien fait, ça donne un petit peu une idée de ce qu'on peut voir dans les classes et quelques pistes pour réfléchir sur comment mettre en place quelque chose d'utile pour eux. Le problème aussi, c'est que, surtout chez nos précoces, quand il va y avoir des troubles comme ça qui vont être croisés, l'un va cacher l'autre. Et ça, c'est hyper fréquent. Donc, un enfant qui va être à la fois précoce et dyslexique, un cas que je connais très bien, il va apprendre à lire. Donc, quand le parent va se rendre compte qu'il y a un truc bizarre, il va demander à l'orthophoniste, et l'orthophoniste va dire, ben non, il lit, il n'est pas dyslexique. La maîtresse, elle, n'a aucun moyen de voir que c'est un enfant dyslexique ou précoce, parce qu'il ne va pas manifester d'aptitude particulière. Forcément, il passe toute son énergie à essayer de lire. Et puis, en même temps, il va déjà lire parce que sa précocité lui aura permis de compenser. Donc, on va s'en rendre compte, en général, au CM2. Ça fait déjà 6 ans, au minimum, qu'il a mis en place des remédiations qui ne sont pas les bonnes. Donc là, l'orthophoniste va s'amuser, parce qu'il va falloir tout démonter pour remonter quelque chose d'efficace. Je vous laisse imaginer le temps de suivi qu'il va y avoir derrière. Donc c'est vrai que ça c'est un souci et on n'a pas les moyens dans la classe de dépister ce genre de choses. Les enfants vont se cacher et rester dans une petite moyenne. Pour nous c'est vraiment compliqué, on a du mal à le savoir. Simplement, quand on sait ce que c'est qu'un précoce et quand on sait ce que c'est que la dyslexie, des choses comme ça, le jour où l'enfant commence à crier, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose. C'est souvent tard. On n'a pas les moyens de faire autrement. Par contre, là, les parents peuvent avoir un rôle parce qu'ils peuvent se rendre compte des choses. Alors, je vous donne un truc. Un enfant qui, au CP, commence à apprendre à lire et vous fait la phrase qu'il a entendue une fois dans la classe en lisant comme ça, le petit garçon dit machin, ça fait un signe, c'est pas lire. Ça, c'est avoir entendu et avoir retenu. Cette mémoire-là, elle devrait alerter. Donc, en fait, on va avoir vraiment des soucis avec ces enfants en particulier qui sont ceux qui vont se retrouver en difficulté à l'école. Essentiellement, ce sont des enfants avec des troubles croisés. Mais on passe à côté. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais faire appel à mon cas perso, j'aime pas ça, mais je pense que c'est le plus simple. Mon fils aîné est précoce, dyspraxique, terriblement dyspraxique, ceux qui le connaissent le savent. Et il est aussi Asperger. On s'en est rendu compte, il avait 20 ans. Voilà. Donc il sert très bien compensé, ça marche bien. Et il est heureux. Pardon. C'est une forme d'autisme qui peut être parfois atténuée. Il y a de la chance, oui, c'est la forme atténuée. Mais je veux dire, on peut se rendre compte très très tardivement des difficultés d'un enfant, simplement parce qu'on passe à côté, on n'a pas les moyens de le voir. Et là, pour le coup, les enseignants ne sont pas en cause. Ils n'ont aucun moyen de voir les choses dans la tête. Alors, pour rebondir sur ce truc-là, c'est fréquent aussi que les enfants, quand ils arrivent à l'école, en particulier, vont regarder comment fonctionnent les autres. Et puis ils vont se dire, pour vivre heureux, ils vont cacher, normal. Et donc ils vont mettre à l'école une façade qui est exactement celle attendue par l'institution, par les copains, par les enseignants, par tout le monde. Quand ils vont sortir de l'école, vous allez récupérer, vous, les parents, des piles électriques parce qu'ils ont passé un temps fou à se concentrer pour donner la bonne image. Ils sont crevés, ils sont au bout du rouleau, et vous, vous payez les pots cassés. C'est normal, c'est notre rôle. Le problème, c'est que c'est assez compliqué pour un enseignant de se rendre compte du décalage entre ce qui se passe à l'extérieur de l'école et ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Pour l'avoir vécu des deux côtés, c'est parfois difficile à croire que cet enfant qui est aussi lisse, aussi parfait en classe, peut être aussi odieux à la maison, simplement parce qu'il décompense. Et ça demande une sacrée confiance entre les parents et les enseignants pour arriver à mettre en place des choses derrière. Ça ne peut passer que par le dialogue. Maintenant, arriver en disant « mon gamin est précoce, il est insupportable pour que vous fassiez quelque chose », pas forcément la meilleure entrée en matière. À vous de voir. Donc, en fait, nos difficultés en classe, ça va être lié à cette manière d'apprendre. Cette manière d'apprendre et à ce regard qu'il va falloir changer sur cet enfant qui ne fonctionne pas comme les autres. Ça n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est vraiment parce qu'il n'y arrive pas. Il ne sait pas comment faire. Maintenant, pour mettre en place des choses, il y a des exemples. Je peux vous en donner 2-3, mais c'est vraiment propre à chaque enfant. J'ai un petit garçon en grande section qui fonce. Pour foncer, c'est assez terrible. Mais il ne réfléchit jamais à comment il fait. Je ne l'ai pas encore dévisté, mais bon, vu qu'il est déjà lecteur depuis un an, je pense qu'il va se poser la question rapidement. Bref, ce petit garçon-là, lorsque je l'ai en calcul, on travaille avec nos mains, on est en maternelle, et systématiquement, je lui demande de m'expliquer comment il a fait pour pouvoir l'expliquer aux copains. Au début, c'est un peu la guerre. Maintenant, ça devient un jeu. Il va falloir chercher toutes les procédures possibles et imaginables, les plus farfelues possibles aussi. Mais n'empêche que, du coup, il est capable d'aller chercher dans sa tête comment il a fait. Et lorsqu'on passe à d'autres noms ou à d'autres opérations, j'étais super fière de moi la semaine dernière quand il m'a dit « Mais en fait, maîtresse, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec les grenouilles. » Ouais. Donc cet enfant-là, ça y est, il est passé du côté. Je sais que je peux savoir comment les faire et réinvestir derrière. Comment ça vient avancer ça. Donc on a des solutions en classe. C'est possible parce que j'ai une petite classe. À 32, c'est beaucoup plus compliqué. C'est possible aussi parce que les relations avec les parents sont suffisamment bonnes pour que quand c'est trop compliqué pour moi, je puisse aussi compter sur les parents pour gérer des choses. C'est possible aussi parce que j'ai un soutien de toutes mes collègues, que j'ai la chance d'avoir un psychologue scolaire qui est vraiment sympa, à la hauteur et qui est très à l'écoute. Et ça n'est pas le cas de tous les enseignants. Vous avez vu qu'avec la politique qui a voulu un petit peu supprimer des postes, c'est les RASEN, les réseaux d'aide qui ont été les premiers en ligne. Et maintenant, c'est simple, on est censé avoir un médecin scolaire, on n'en a pas. Donc la visite de grande section ne sera pas faite. Il n'y en a pas assez. Même chose pour les psys, ils sont débordés et n'ont aucun moyen de gérer tout ce qu'on leur demande. Donc pour les enseignants, on est vraiment très seul dans sa classe. Et puis, il va falloir gérer comme on va pouvoir. Ceci étant, on y arrive très bien. On y arrive avec des stratégies, on y arrive avec tout un tas de choses. Ce n'est pas ici le lieu où on va développer ce genre de choses. Ça se passe en animation pédagogique parce que ça prend beaucoup de temps. Mais il y a plein de solutions possibles. La seule chose, c'est que ça ne peut passer que par un dialogue, un vrai dialogue, entre les parents et les enseignants. Et il ne s'agit pas du dialogue à 4h30 quand on vient chercher les enfants, que la maîtresse est épuisée par sa journée à gérer les 32 zigotos. C'est pas ça. Hein. Mais le dialogue, c'est on prend rendez-vous régulièrement dans l'année, on fait le point et on avance. Quitte à mettre en place des contrats avec les enfants et les parents pour mettre en place des choses un peu construites. Il y a des solutions, elles existent et pour la plupart des enseignants, on sait déjà faire. Simplement, il va falloir oser le faire. Il n'y a rien d'impossible. Et je suis une grosse flemmarde, donc je ne cherche pas des choses qui vont me prendre un temps fou chez moi en préparation, mais au contraire des choses qui vont mettre les enfants au travail, et surtout en précoce, sans me demander non plus de passer des menus dessus, et on trouve des solutions. Après, vous pouvez vous rapprocher des différences d'inspection avec des animations qui sont possibles et des gens qui sont très bien qui vont pouvoir venir expliquer, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui, il faut juste se lancer. Et ça marche. Thank you.